Portes de la connaissance, une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué. Bonjour, bonjour, chers auditeurs. Et oui, on est en direct d'Aude Radio, dans les portes de la connaissance. Alors, on va faire une émission aujourd'hui sur... Ben, vous avez l'habitude d'avoir des émissions sur les anciennes civilisations. On en a fait pas qu'une, on en a fait plusieurs. On avait accueilli Patrice Marty, Olivier Rio, Thierry Jamin et bien d'autres encore. Moi aussi, j'avais fait une émission sur les anciennes civilisations. C'est un sujet brûlant, un sujet qui prête à questionnement, parce qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que ces anciennes civilisations et d'où elles viennent exactement, ce qu'elles ont fait autrefois, quels étaient les moyens pour construire des bâtiments et des monuments dont on se pose des questions, savoir comment ont-ils bien pu être construits. C'est ce qu'on se pose comme question. Et justement, on a de l'archéologie. Alors, l'archéologie standard a toujours les mêmes théories, c'est-à-dire, vous savez très bien de quoi je veux parler. Alors que la théorie moderne, je dirais, de l'archéologie moderne, a des théories beaucoup plus, comment dire ça, élogieuses, beaucoup plus... des théories qui sont beaucoup plus... j'arrive pas à trouver le terme. On va en parler avec notre ami Éric Le Saint, qui est justement... on peut dire égyptologue ou pas ?
Surtout pas.
Non, surtout pas. Surtout voilà.
Voilà, parce que l'égyptologie est la science humaine. Et je suis toujours parti du principe qu'on n'expliquera jamais la construction d'un monument tel que les pyramides par de la science humaine, mais par de la science physique. Et donc, je ne me considère pas du tout historien. Je suis passionné par l'histoire, mais je suis ni historien ni égyptologue. J'amène mes compétences, mon expérience, pour expliquer ce que c'est qu'un, comment on peut construire un bâtiment. J'essaie de mettre de la rationalité, parce que pour moi, l'égyptologie n'est basée que sur de l'interprétation et non sur des faits. Parce que à chaque fois qu'on essaye d'expliquer le transport d'une pierre, le taillage d'une pierre, eh bien, on n'y arrive pas. Donc on voit des petits dessins sur des fresques et on dit c'est comme ça qu'ils ont fait. Non, il faut reproduire. Tant qu'on n'a pas reproduit, eh bien, c'est que c'est pas possible. La base de la science, c'est la reproductibilité. Et c'est ce que ne font jamais l'égyptologie. Ils essayent et ça ne marche jamais.
D'accord. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut... Vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle comment ?
Alors, mon ouvrage, il s'appelle « Le secret de l'implantation des pyramides d'Égypte ». Et le but de cet ouvrage, c'est donc toujours d'amener de la rationalité. Et qu'est-ce que j'ai fait pour amener de la rationalité ? Eh bien, j'ai pris les longueurs et les dimensions qui ont été données par les égyptologues entre les pyramides de Gizeh. Je me suis servi d'autres logiciels pour des distances un peu plus importantes. Et mon but, c'est de montrer que grâce à la mesure, eh bien, on peut prouver que les pyramides n'ont pas été positionnées par hasard, qu'il y a eu un plan d'ensemble avant construction, et surtout il y a eu un cahier des charges qui peut paraître démentiel, puisque donc on établit ce cahier des charges dans ce livre, et on montre qu'il y avait beaucoup, beaucoup de paramètres qui étaient demandés à l'architecte et au bâtisseur avant de construire tous ces bâtiments. Donc moi, je me suis intéressé pourquoi à l'implantation. Parce que les pyramides, eh bien, sont à la même position maintenant qu'à la construction. Et si on reprend les dimensions entre chaque pyramide, eh bien, peut-être qu'on pouvait avoir des informations. Et je prouve qu'on a des informations exceptionnelles en prenant simplement les cotes des pyramides, les hauteurs, les largeurs, leur positionnement. Et j'arrive à valider la chronologie des archéologues, parce que la chronologie de construction de l'archéologie est basée sur l'implantation, et grâce à mes mesures, j'arrive à la même conclusion que les archéologues, sauf, et ce qui change tout, à Gizeh, il y a trois pyramides que tout le monde connaît, Khéops, Mykérinos et Khéphren. Et moi, j'explique que la pyramide du milieu, Khéphren, a été construite avant Khéops, et ça remet en cause eh bien, tout ce qu'on dit sur l'archéologie, notamment le fait qu'il y ait des des momies ou qu'il y ait eu des momies et des trésors dans les pyramides, parce que voilà, le fait que Khéphren soit construit avant, ça change tout. Faut bien savoir que dire à vos auditeurs qu'on n'a jamais retrouvé la moindre momie dans une pyramide et le moindre hiéroglyphe. Il y a 4 ou 5 pyramides où il y a des hiéroglyphes tels que la pyramide de Nas, mais c'est de la, à mon avis, de la réappropriation, puisque par exemple sur la pyramide de Nas où on parle de Ounas qui est mort, on ne dit jamais que Ounas est enterré dans cette pyramide. Donc aujourd'hui, l'archéologie n'a aucun élément pour nous expliquer que les pyramides sont des tombeaux.
D'accord. Oui, en fait, c'est une théorie qui ne tient pas la route, en fait.
Ben, c'est une théorie, c'est une hypothèse.
Est-ce que justement, parce qu'on a toujours dit ça, on a toujours dit que les pyramides dans la chambre haute, dans la chambre basse, c'était des tombeaux, mais est-ce qu'on a découvert dans ces tombeaux de la momification? Est-ce qu'on a découvert quelque chose ou on a fait une simple déduction?
Alors aujourd'hui, on a fait une déduction, comme on le fait pour les cairns, pour les tumulus, les menhirs, les dolmens. À chaque fois qu'il y a quelque chose de mégalithique, c'est toujours une sépulture. Mais non, on n'a jamais retrouvé, ni sous un dolmen, ni sous un tumulus, ni sous une pyramide, des ossements. On part du principe que ces gens-là n'avaient qu'à ça à penser, les croyances, et qu'ils faisaient des monuments gigantesques pour mettre des morts. Mais on n'a rien. Voilà, on n'a rien. Ni... Alors, ce qui est extraordinaire aussi, pour que les gens le sachent, c'est que les Égyptiens étaient très, très prolixes. Tout ce qu'ils faisaient dans la journée, ils le notaient sur des papyrus, sur des fresques. On a plein d'informations sur les fresques, mais c'est simplement des petits dessins. Et les Égyptiens n'ont jamais parlé de pyramide ni dessiner une pyramide. C'est comme s'ils n'avaient jamais vu de pyramide. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que les Égyptiens ont parlé de tout, sauf de ce qui était le plus évident, le plus grand, le plus haut, les pyramides. Comme s'ils ne les avaient jamais vus. Ça, c'est vraiment un mystère.
D'accord. Alors, de quoi parle ce livre exactement? Parce que écrire un livre sur les pyramides, c'est une chose, des livres sur les pyramides, il y en a eu des tonnes, il y en a eu plein, qui racontent tout et n'importe quoi, ou des vérités, ou des aberrations. De quoi parle ce livre exactement?
Alors, il parle de rationalité, ça c'est important. Donc, et la première partie, elle est faite pour revenir sur tous les arguments archéologiques, style le papyrus de Merer, où on dit que dans un fameux papyrus qui s'appelle le papyrus de Merer, on parle de transport de pierre pour la pyramide de Khéops. Alors c'est complètement faux, ce papyrus qui n'a jamais été daté parle de transport de pierre mais jamais pour les pyramides. Donc je reviens sur les points essentiels qui servent d'éléments, on va dire, de consensuels à l'archéologie pour les démentir. Et après, eh bien, je reprends les 7 grandes pyramides d'Égypte. Et j'explique leur positionnement par rapport au pôle Nord. Le pôle Nord est très très important, c'est ça qui est complètement dingue, c'est que bien, les pyramides ont une position très particulière par rapport au pôle Nord, et je reviens à la position des pyramides entre elles pour justement valider cette chronologie. Ouais, mon but, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ces emplacements, pourquoi ces distances entre les pyramides, pourquoi ces dimensions des pyramides, pourquoi ces hauteurs, et j'explique les formes aussi des pyramides, pourquoi il y en a qui sont en palier, d'autres qui sont des pyramides 10. Voilà, donc on revient à peu près, c'est très exhaustif, hein, parce que si je prends les 7 pyramides, si j'en oublie une, eh bien ça marche pas. À chaque fois que les archéologues prennent des éléments, c'est souvent non exhaustif. Par exemple, les archéologues nous disent on avait besoin du Nil. Les pyramides sont près du Nil, ça prouve qu'on avait besoin du Nil, N-I-L, pas I-L-E, du Nil, N-I-L, pour construire les pyramides. Sauf que ça marche pas pour d'autres pyramides comme Djédéphré et Lepsus, hein, qui sont loin du Nil. Alors, c'est une corrélation. Les pyramides sont à côté du Nil. Alors, on part du principe que c'est le Nil qui a servi au transport des pierres, mais peut-être qu'on avait plutôt besoin de l'eau du Nil après la construction, peut-être pour faire communiquer les pyramides entre elles. Et l'archéologie part du principe que si les pyramides sont près du Nil, c'est que on a transporté les pierres par bateau, mais on n'a jamais pu reproduire le transport d'une pierre de 1 tonne alors qu'il y a des pierres de 60 tonnes. Donc pour le moment, eh bien, il n'y a aucun élément qui prouve qu'on se servit du Nil, de l'eau du Nil, de cette rivière, pour transporter les pierres.
Oui, parce qu'il y avait une carrière, soi-disant une carrière de pierres qui était à l'amont du Nil, qui était très loin du site de Gizeh. Et on disait que, soi-disant, on allait chercher ces pierres dans la carrière, qu'on les transportait en bateau et qu'on les faisait rouler sur des rondins de bois ou tirés par des animaux ou par des hommes directement sur le sable. Est-ce que c'est pas une théorie un petit peu fanfreluquette, parce que en fait, faire rouler des pierres de plusieurs dizaines de tonnes par ces moyens et les transporter sur plusieurs dizaines de kilomètres, est-ce que c'est pas un peu comment dire ça aventureux de dire des choses de telles choses, parce que c'est la théorie pourtant qui est standard, qui dit ces choses-là.
Alors pour les carrières, bon, la plupart des pierres des pyramides étaient prises sur place pour construire les pyramides, mais tout le parement blanc venait d'à peu près de 15 km des pyramides de Gizeh, et toutes les pierres de granit, il y a beaucoup de granit dans les pyramides, elles viennent d'une carrière qui est à 700 km des pyramides. C'est-à-dire qu'il fallait donc monter une barge à contre-courant jusqu'à à soit 700 km et revenir avec les courants, avec des pierres de 70 ou 80 tonnes, et même 600 tonnes pour les obélisques. Voilà, il faut savoir que, par exemple, pour construire le bateau à la Roche, de Rochefort, là, avec la paillette, j'ai un trou de mémoire qui fait 35 mètres, le bateau qu'on a reconstruit, il a fallu 4000 chaînes, et on parle en Égypte des bateaux de 60 mètres pour transporter des obélisques. Avec quel arbre ils ont fait ça, puisque l'Hermione, voilà, chercher l'Hermione. Eh bien, comment ils ont fait pour trouver des milliers d'arbres pour construire des bateaux, puisque la particularité de l'Égypte, c'est un désert, il n'y a pas d'arbres. Donc, on part du principe que on peut trouver des arbres alors qu'il n'y en a pas. Et puis au niveau donc du transport, alors c'est même pas des rondins, parce que on parle de planches, de tirer sur des planches, alors que un arbre, la particularité d'un arbre, c'est que dans son aspect primaire, il est rond. Alors pourquoi ne pas utiliser des rondins et découper des rondins en planches avec des outils qu'on n'a pas, parce qu'on n'avait quasiment pas d'outils. Alors on nous explique qu'on prenait des ronds, c'est quand même plus simple de faire transporter des pierres sur un rond qu'un tronc, qu'on prenait un tronc et qu'on le coupait en planches pour tirer des pierres sur du sable. Non, si on ne nous avait pas de rondins, pourquoi pas, mais de planches, non, c'est encore un travail supplémentaire qui ne s'explique pas.
Oui, et puis la région du désert désertique autrefois était, d'après le climat de l'époque, aurait été une région beaucoup plus arboré. Il y aurait eu beaucoup plus d'arbres qu'aujourd'hui. C'est ce qu'on disait d'après le climat. Est-ce que c'est un peu vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que le climat était différent à cette époque-là?
Alors, ça dépend à quel moment on pense à la construction des pyramides. Si on prend la position officielle, c'était pas beaucoup plus vert. Si on part du principe que les Égyptiens, avec les outils qu'on nous propose, ne pouvaient pas construire ces monstres de pierre, on peut penser que c'était plus vert, parce que pour moi, les pyramides n'ont jamais été construites par les Égyptiens, puisque la science physique démontre le contraire. Donc je pense que c'est beaucoup plus vieux. Mais ça peut être plus vert, ça n'empêche qu'il faut des bois solides, comme le chêne, et il n'y a pas de chêne, il n'y a jamais eu de chêne en Égypte. On parle d'acacia, on parle de bois, on peut faire des mâts, mais on ne peut pas faire des bateaux avec les bois qui sont composés, même si on prend un désert plus verdoyant. On a vraiment un problème d'essence de bois aussi.
D'accord. Gizé, qu'est-ce qu'on peut dire sur Gizé? Parce qu'il y a Gizé, Khnéfren et Khnéfrou. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'une des trois pyramides, celle qui est centrale, sur Gizé? Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Ah ben, sur les trois pyramides de Gizeh, qu'est-ce qu'on peut dire que par rapport à quoi, par exemple, parce que
Sur les
déjà.
dimensions, par exemple, sur les dimensions.
Ah ben, sur les dimensions, c'est passionnant sur les, parce que moi je parlais sur la dimension. Alors, ma particularité et d'autres chercheurs, parce que je suis pas le seul à partir de principe, c'est que on travaille au système métrique. Et ça, les archéologues ne veulent pas l'entendre. Pourquoi on ne peut pas parler du système métrique? Parce que le mètre, c'est un 40 millionième de la taille de la Terre. Donc si on trouve le mètre en Égypte, ça veut dire que ceux qui ont construit les pyramides connaissaient la taille de la Terre pour en déduire du mètre. Et la grosse erreur qui est prise quand on mesure les pyramides, c'est de mesurer les côtés des pyramides. Et les pyramides n'ont pas été construites avec des carrés, mais ont été construits par des cercles. On a fait des cercles et on a inclus la pyramide à l'intérieur du cercle. Alors, ça veut dire que ce qui est important, c'est la diagonale qui sert de diamètre au cercle. Et si on travaille avec la diagonale, eh bien, tout le système métrique apparaît d'une manière exceptionnelle. Si on prend la diagonale de la pyramide de Khéops plus la diagonale de la pyramide de Khéphren, eh bien, on arrive à 500 mètres pile. Donc 500 mètres, c'est le rayon d'un cercle qui fait 1000 mètres de diamètre. 1000 mètres qui fait pi en circonférence. Et si on additionne la petite pyramide, la diagonale de la petite pyramide qui fait 118 mètres, donc 500 plus 118, ça fait 618. Et 618, eh bien, c'est l'inverse du nombre d'or. Donc, d'une manière factuelle et imparable, eh bien, si on mesure les diagonales des pyramides, on va obtenir le système métrique et on va trouver partout le nombre d'or ou l'inverse du nombre d'or. Si je fais un cercle autour de la pyramide de Khéops en partant de la demi-base, eh bien je vais obtenir un cercle qui fait 1618 mètres de circonférence. C'est le nombre d'or. Et on obtient partout soit le nombre d'or, soit le système métrique. Mais parce qu'on va travailler avec des diagonales et non avec les côtés des pyramides. Et ça, c'est l'erreur qui a été commise, c'est de partir du principe que les pyramides sont des carrés. Il faut savoir qu'en Égypte, il n'y a pas de carrés. Pourquoi on ne peut pas y avoir de carrés? Parce que la Terre est ronde, c'est une sphère, et on ne peut pas avoir quatre angles droits sur une sphère. Donc, ce qui est utilisé en Égypte, c'est le triangle, c'est-à-dire l'équerre, et le cercle, le compas. Et on va retrouver la symbolique maçonnique qui est très, très, très adepte de la symbolique égyptienne. Et puisque moi, je vais prouver qu'en Égypte, on n'a jamais utilisé de carré, on a utilisé des équerres et des compas. Voilà. Et pour moi, l'équerre et le compas n'appartiennent pas à la franc-maçonnerie, mais appartiennent à l'humanité, puisque c'est notre histoire. Ce qui est important, c'est ce que je dis à beaucoup de gens, c'est qu'il ne faut pas laisser notre histoire est décryptée par procuration. Notre histoire, c'est nos racines, ça nous appartient et on a toute légitimité à essayer de comprendre notre histoire, notre racine, nos racines. Donc, j'encourage les gens à ne pas faire décrypter donc tout notre passé par d'autres personnes, par procuration.
D'accord. Alors, dans les dimensions, on trouve le nombre d'or. Le nombre d'or, qu'on explique à nos auditeurs, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une constante de l'univers, c'est quoi?
Alors, le nombre d'or, c'est donc, le chiffre, c'est 1,618, et il a son inverse, 618. Alors, c'est un chiffre qui est très particulier parce qu'il a des propriétés mathématiques, il a des propriétés géométriques, et on va le trouver dans ce qu'on appelle aussi la suite de Fibonacci, mais on le retrouve partout dans la nature. On va le retrouver bien dans les feuilles, dans les fleurs, dans le corps humain. Il est partout, hein, Léonard de Vinci l'a montré. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est la notion du beau et c'est le chiffre de l'univers. Si on prend ce que fait Mathieu Lavaux, par exemple, ou que faisait Georges Bernard, qui est décédé le 14 février, eh bien, c'est de montrer qu'aussi l'univers répond au nombre d'or. C'est comme si un créateur avait utilisé ce chiffre, ce nombre, 1,618, cette proportion, pour régler tout l'univers. Tout marche avec le nombre d'or, la faune, la flore, les planètes. Alors quand on le retrouve dans les pyramides ou dans l'architecture, bien, on peut prouver que ça n'a pas été fait par hasard.
Voilà, ça a été fait dans un but bien précis, pour qu'on retrouve ce chiffre et qu'on puisse. Est-ce que ça n'a pas été prévu pour qu'on puisse le découvrir un peu plus tard, justement?
Ah ben, pour moi, c'était un jeu avec les bâtisseurs. Les bâtisseurs ont mis plein plein d'indices et j'ai travaillé comme un jeu de piste. Et j'avais l'impression de les entendre rire et sourire dans ma tête à chaque fois que je découvrais quelque chose en disant, ben voilà, ça je l'ai trouvé, ça j'ai trouvé. Et ça n'a pas été un livre dur à faire parce que pour moi, c'était un jeu. Et je trouvais des choses qui étaient cohérentes avec ce que j'avais trouvé avant. Et voilà, les bâtisseurs, sachant que les pyramides étaient un livre de pierre, puisque les pierres étant figées, ils ont mis plein plein d'indices qu'il fallait retrouver. Alors il y en a sans doute encore d'autres que j'encourage aux auditeurs à trouver, mais le but c'était justement de trouver tous ces indices.
Est-ce que
Alors,
juste oui?
il y a quelque chose que je voulais par rapport à l'archéologie officielle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un gros biais, c'est que on veut tout expliquer. Et aujourd'hui, quand on n'a pas de preuves, on passe par le consensus. Alors, il faut bien comprendre ce que c'est qu'un consensus. Un consensus, c'est des gens qui sont tous d'accord, qui rejettent tous les gens qui ont des idées différentes, et qui, par la magie de l'autorité, transforment une croyance en science. Il faut bien comprendre que le consensus n'est qu'une croyance. À partir du moment où on vous parle de consensus, eh bien, il faut comprendre qu'on a rejeté tous les gens qui n'étaient pas d'accord et on a transformé une croyance en vérité. Et ça, il faut bien que les auditeurs le comprennent. On a plein plein d'exemples dans l'histoire où des consensus sont tombés. J'aime bien parler, par exemple, du consensus sur l'amiante. L'amiante, c'est pas dangereux. Tel médicament, c'est pas dangereux, etc., etc. Aujourd'hui, en Égypte, on n'a que des consensus.
D'accord. Quel autre chiffre on retrouve dans les dimensions pyramidales en prenant, par exemple, on prend des dimensions, on va diviser le côté par la hauteur, on va trouver un chiffre, etc. Je l'avais vu dans le documentaire de Jacques Grimaud qui est très intéressant, La révélation des pyramides, où on explique pas mal de choses. Et quel autre nombre, quel autre chiffre? On retrouve le chiffre pi, je crois, non?
Alors, je voulais revenir juste sur LRDP, La révélation des pyramides. C'est un film qui a été beaucoup attaqué, alors qu'il ne posait que des questions. C'est ça qui est dommage, c'est que c'est un film qui était très, très humble, puisque le but de ce livre, c'était de montrer des choses et de se poser des questions. Et le fait qu'il ait posé des questions, c'est encore plus dérangé que s'il avait donné des réponses. Et on a été plein plein de chercheurs à comprendre ce film. Et mes travaux, justement, n'existent que parce que j'ai vu les révélations des pyramides et j'ai compris qu'il fallait travailler d'une manière rationnelle. Donc, je voulais insister là-dessus, c'est que le film de Jacques Grimaud, Patrice Pouillard et Olivier Krasken-Rosen est un film qui était très humble et il était très attaqué. Donc, ça, c'est assez dommage. Alors, au niveau des nombres, alors, ce qui est extraordinaire, c'est que moi, j'ai trouvé, bien sûr, le système métrique partout. J'ai trouvé le nombre d'or qu'on appelle aussi phi, et bien sûr pi, puisque je travaille avec des cercles, donc on va trouver pi. Mais on va trouver d'autres nombres, bon, on va trouver bien sûr ce qu'on appelle la coudée royale, qui fait 52-36, et ça gêne les archéologues, parce que 6 fois 52-36, ça donne pi, et un cercle de pi, ben, ça donne un mètre de diamètre. Mais j'ai trouvé aussi ce qu'on appelle le yard mégalithique, je suis pas le seul à l'avoir trouvé, il y a Quentin Leplat ou Howard Cowart qui l'ont trouvé aussi, le yard mégalithique. Et le yard mégalithique, c'était une mesure qui était utilisée au néolithique en Bretagne et en Irlande. Et moi, ce que je démontre, ce que personne n'avait fait, je démontre que on peut passer du yard mégalithique à la coudée, au mètre, à pi, à phi, avec une seule équation. C'est-à-dire que si on prend les mesures qui ont été utilisées en Écosse, en Irlande, en Égypte, toutes ces mesures sont issues du système métrique. Et on va retrouver aussi beaucoup... alors, ma particularité, c'est ça qui est intéressant, c'est que ma particularité, parce qu'on a tous une particularité, c'est de penser qu'il y avait d'autres nombres sacrés. C'est les caractéristiques de la Terre et de la Lune. Parce que si je prends le diamètre de la Terre que je l'additionne au diamètre de la Lune, donc 12714 plus 3474, eh bien, je vais obtenir exactement le nombre d'or. Donc, si je, alors, là, je vais expliquer quelque chose d'extraordinaire que j'ai trouvé aussi. J'espère que vos auditeurs vont comprendre, mais ils peuvent le faire sur un petit schéma. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver en Égypte, ces relations Terre-Lune. Si je prends la Terre, c'est un cercle qui fait 40 046 km de circonférence. Et si je fais un carré tout autour de la Terre, le côté du carré, ça sera bien sûr le diamètre de la Terre, 12742 pour son diamètre moyen. Donc, si je fais un carré tout autour de la Terre, le carré que je vais faire autour de la Terre va faire 50 968 km. Et il va donc inclure à son centre, à l'intérieur de lui, une circonférence qui sera la Terre, qui fait 40046. Si je soustrais le carré 5968 qui contient la Terre à la circonférence de la Terre 40046, 5968 moins 40046, ça va me donner exactement 10922. C'est la différence entre le carré et la circonférence. Eh bien, 10922, c'est exactement la circonférence de la Lune. C'est une équation qui marche à 100% de précision. C'est-à-dire que le carré qui contient la Terre contient la circonférence de la Terre et circonférence de la Lune. C'est complètement fou. Mais pour moi, ça prouve que ces chiffres sont sacrés, parce qu'on voit que la Lune, eh bien, ses proportions ne sont pas du hasard non plus.
D'accord. Alors Eric, on va faire pour nos auditeurs, on va faire une pause musicale.
Oui,
on fait une pause musicale et puis on revient tout de suite après la pause. Allez, à tout de suite. Alors après cette pause musicale, on revient avec Éric Le Saint qui parle des pyramides, qui a écrit un livre sur les pyramides, sur les dimensions et les correspondances des dimensions du système métrique, sur la correspondance qu'ont les dimensions, qu'elles soient multipliées, divisées les unes avec les autres, etc. Et qu'elles donnent des indices sur des nombres comme le chiffre pi, le nombre d'or, etc. Et on en parle avec lui aujourd'hui. Alors, justement, une question me vient à l'esprit. Est-ce qu'on n'a pas trouvé d'autres mesures qui nous indiquent d'autres choses sur le plan astronomique? Parce que je crois qu'on a découvert, avec des calculs, on avait la vitesse de la rotation de la Terre sur son axe ou autour du Soleil, je ne sais plus. Est-ce que c'est vrai?
Alors, on a retrouvé par exemple la vitesse de la lumière sur la pyramide de Khéphren, ça on le voit dans la révélation des pyramides. Donc moi j'ai trouvé, alors je reprends mes petites notations. Alors moi ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de retrouver la vitesse de la Terre, de la rotation de la Terre dans les pyramides, et on la trouve de deux manières. Par exemple, si je prends la surface de la pyramide de Khéphren, qui fait 4638 hectares, eh bien, 4638, c'est la vitesse de la rotation de la Terre. Alors, j'aurais dû mettre une note. On retrouve la vision de la Terre à l'équateur. Et on retrouve la rotation de la Terre aussi au plateau de Gizeh. Ceci, je n'ai pas pris mes notes, donc je n'ai pas les chiffres par cœur. Bon, je vais les retrouver tout à l'heure. On peut passer à autre chose et puis je vais redonner exactement les chiffres tout à l'heure.
Oui, parce que justement, je sais qu'avec les dimensions, par exemple, on prenait la dimension des deux côtés additionnée avec divisée par la hauteur de la pyramide, on trouvait quelque chose. Et par rapport au système métrique, par rapport aux dimensions de la pyramide, on retrouve pas mal de choses, comme par exemple la cartographie, je crois qu'on avait retrouvé la cartographie du pôle Nord par rapport à certaines dimensions de la pyramide. Est-ce que c'est une théorie qui est juste ou pas? Parce qu'on avait découvert, par rapport à certaines dimensions, la circonférence du pôle Nord, je crois. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Alors, j'ai retrouvé ce que je disais. Donc, la vitesse, la surface de Khéphren représente la vitesse de la Terre en une seconde à l'équateur. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
D'accord.
Alors, ma spécificité, c'est de parler de la position des pyramides par rapport au pôle Nord aussi. Et alors c'est hyper précis. Là c'est complètement difficile d'expliquer en audio, mais je prouve que la position de Mykérinos va donner le diamètre de la Terre, la position de Khéphren va donner le diamètre de la Lune, et la position de Khéops va donner exactement le nombre de tours que fait la Lune autour de la Terre en un an. Donc, ça correspond exactement à ce qu'on vient de parler. On va retrouver donc les caractéristiques de la Terre par rapport au pôle Nord et la caractéristique de la Terre et de la Lune dans leur danse autour du Soleil.
D'accord.
Ça fait partie du cahier des charges.
Oui.
Et donc, par exemple, toutes les pyramides sont placées autour du Nil. Et on a l'impression d'un emplacement un peu chaotique. On voit qu'elles sont un petit peu n'importe où. Et je prouve que si on fait deux cercles, un représentant la Terre au 1/100 et la Lune au 1/100, eh bien, on va pouvoir placer toutes ces pyramides sur des cercles d'une manière très très précise. Et on prouve que il y a des pyramides qui correspondent à la Lune et des pyramides qui vont correspondre à la Terre. Et le côté Terre, c'est le côté masculin, et le côté Lune, c'est le côté féminin. J'insiste aussi sur le fait qu'on a des pyramides féminines, des pyramides masculines, des pyramides lunes et des pyramides terre.
D'accord. Est-il vrai que dans la pyramide de Gizeh, celle qui est au milieu des autres pyramides, la plus grande, on aurait découvert qu'elle avait 8 faces au lieu de 4?
Alors bien sûr, j'explique parce que on a des archéologues qui nous parlent de c'est complètement fou, c'est qu'on s'est aperçu, donc on le voit aussi dans la version des pyramides, que si on regarde la pyramide de Khéops et la pyramide de Mykérinos, pas celle du milieu, celle du milieu qui est construite la première, et j'explique pourquoi on ne trouve pas de huit faces sur la pyramide du milieu, ça prouve bien qu'elle est construite la première, eh bien on voit que les faces, les quatre faces, il y a un sillon au milieu, un sillon de qui donne un angle de quelques degrés, c'est-à-dire que la pyramide, si on la voit en fonction d'un certain regard, eh bien on voit huit faces et non quatre faces. Donc les archéologues nous expliquent que quand on a enlevé le parement, on l'a fait rouler au milieu, et ça a fessé d'une manière symétrique les quatre faces de autres faces de la pyramide. C'est complètement débile, surtout que personne n'est allé voir en dessous, on ne peut pas faire une expertise sans voir à l'intérieur, et on n'a pas accès à l'intérieur. Donc c'est complètement débile, il faut absolument expliquer quelque chose. Alors on explique que c'est simplement la pierre en roulant du parement, quand on l'a enlevé, en roulant, qui a fait cet affaissement symétrique. Eh bien moi j'explique que s'il y a cet affaissement, c'est simplement pour un repère de mesure. Et si ça, c'est pour marquer la demi-base de chaque pyramide. Et si on part de là, on a des mesures. Alors c'est ça qui c'est la fin du livre. Et la fin du livre, je montre que si je reproduis en 2D à l'échelle 4 les pyramides en partant des demi-bases qui sont marquées par ces huit faces, eh bien on obtient un code, on obtient trois droites qui vont se croiser pas loin de Mykérinos, et pour moi cet emplacement détermine l'accès à des chambres secrètes. Alors pas forcément où il y a des trésors, mais où il y a sans doute une salle d'archives. Donc d'une manière rationnelle, factuelle, je montre qu'il y a un code dans les pyramides, et si on les reproduit au sol sur le sable, eh bien on va avoir trois hypoténuses qui vont se croiser avec une précision, une approximation de moins d'un mètre, donc c'est hyper précis. Et si à mon avis on creuse à cet endroit-là, eh bien on va obtenir l'accès à des chambres, à une salle d'archives.
D'accord.
Alors pour ceux qui croient au pendule, mais il y a 5-6 personnes qui travaillent au pendule, qui ont validé ce que je trouve par la géométrie. Donc ça serait intéressant, puisque je donne l'endroit exact dans le livre, et qu'on aille voir en cet endroit-là ce qui se passe.
Alors justement, par rapport à la chambre, aux chambres hautes, à la chambre basse, si elles ne sont pas des tombeaux, à quoi elles servent?
Alors, ce que j'essaie dans ce livre, c'est de rester rationnel, parce que pour un premier livre, je voulais être crédible et avoir un aspect scientifique. J'ai essayé d'être crédible, mais en mettant mon inspiration, parce que je me considère d'abord artiste avant d'être chercheur. Et pourquoi c'est important d'être artiste? Parce que on a de l'inspiration. Et c'est vrai que l'inspiration permet d'aller dans des endroits où les autres ne vont pas. Et j'ai envie de reprendre une phrase d'un égyptologue qui s'appelle Marc Gabold et qui met le recours à l'imagination est donc indispensable pour combler les lacunes de la documentation. Contrairement à une opinion généralement partagée, l'imagination n'est pas un dévoiement de la méthode historique, mais son essence même. Donc même un égyptologue vous explique qu'il faut aller vers l'imagination, l'inspiration. Et c'est ce que j'ai fait justement pour sortir des chemins battus. Et dans mon inspiration, je me suis cantonné à expliquer comment on a positionné les pyramides, pas à quoi elles servent. J'explique bien sûr qu'elles ne sont pas des tombeaux puisqu'on n'a aucune preuve, mais pour moi et pour la grande majorité des gens, ce sont des machines. Elles ont une utilité avec l'eau peut-être, est-ce que ça marche avec ce qu'on appelle l'osmotisation, la différence de potentiel entre l'eau de mer et l'eau douce, je ne sais pas, mais le fait est qu'on a une pyramide qui est la plus au nord, qui s'appelle Djédéfré, qui est un grand trou comme si c'était un réservoir, et au sud des pyramides on a un autre grand trou qui s'appelle la grande excavation. Donc c'est comme si on avait un parcours entre Djédéfré, où on a un grand trou, l'eau qui aurait coulé vers les trois pyramides de Gizeh pour se rejeter après, avec un retraitement, peu importe lequel, dans ce qu'on appelle la grande excavation. C'est possible qu'on se serve de l'eau, mais on ne fait pas des monuments comme ça pour simplement enterrer des morts. Il faut quand même savoir que si je démonte les 7 pyramides et que je fais un mur de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre de haut, eh bien ce mur va faire 12 000 km, simplement avec 7 pyramides. Donc c'est énorme.
D'accord. Alors justement, paraît-il que sous les pyramides, il y a une relation entre les pyramides, elle serait reliée par des canalisations d'eau. Et la théorie voudrait que si elles sont reliées par des canalisations d'eau, elles seraient considérées comme d'énormes condensateurs d'énergie électromagnétique et qu'elles serviraient. Alors on ne sait pas, on ne connaît pas la fonction de ces condensateurs électromagnétiques. Mais c'est pour ça qu'on a démonté le pyramidon, c'est ce qui est dit, et que le pyramidon est fait d'un métal précieux très rare qui serait conducteur d'énergie cosmique et qui permettrait à la pyramide d'être un énorme condensateur. Est-ce que c'est une théorie qui tient la route ou est-ce que vous avez des connaissances sur ça ou pas?
Ma théorie, c'est que quand on fait des monuments, il faut que ça ait un sens. Si ça n'a pas de sens, personne ne fera le travail. On voit les cathédrales, les basiliques. Pourquoi est-ce que les gens ont fait des basiliques et des cathédrales et les ont sculptées comme ça, ils ont passé beaucoup de temps à faire du beau? C'est parce que ça avait un sens à leur vie. Si un travail n'a pas de sens, personne ne le fait ou c'est mal fait. Si on a fait ces pyramides-là, il fallait que ça ait un sens. Et donc le fait que ça soit une machine donne un sens au travail. J'aime bien prendre l'exemple, par exemple, d'un guitariste que je joue de la guitare. Si on me met des cordes sur ma guitare et je fais de la musique, je peux jouer pendant des heures. Si on enlève les cordes de ma guitare et que pendant je dois jouer de la guitare sans cordes, sans déclencher du son, au bout de 10 minutes, comme il n'y aura pas de sens à mon travail, au bout de 10 minutes, je vais avoir mal au bras. Donc il faut bien comprendre que tout travail gigantesque a eu un sens, autrement personne ne l'aurait fait. Il n'y a pas eu d'esclaves en Égypte. Et puis c'est trop précis pour que ce soit des esclaves qui ont fait ça. Donc il y a un sens pour faire ça, et le fait que ça soit des machines a un sens. Alors pour revenir sur canalisation d'eau, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est quand on parle de canalisation ou de souterrain sur Gizeh, c'est un sacrilège. Oui, on est fou de croire qu'il y a des souterrains sur Gizeh. Il faut savoir que sous la pyramide de Saqqara, la pyramide de Djoser, on a 7 km de tunnels officiels de souterrains. Donc je ne vois pas pourquoi il y en aurait sous Saqqara et pas Gizeh.
D'accord.
Donc sans doute que toutes les pyramides sont reliées entre elles par des canaux. Donc si on prend le qu'on appelle le trou d'Osiris à Gizeh, donc on a une structure, un espèce de puits, le puits d'Osiris, qui est rempli d'eau à l'intérieur. Et c'est pour ça que pour moi, le Nil n'a pas servi au transport des pierres, mais sert à la communication des pyramides entre elles.
D'accord, oui.
L'eau du Nil.
Voilà.
Pour moi, c'est l'eau est intéressante pour la fonction des pyramides, non pas pour leur construction. Parce que personne n'est capable de transporter une pierre de 600 tonnes avec des bateaux qu'on a fabriqués avec un bout de cuivre. Ça ne tient pas la route.
D'accord.
Donc les bâtisseurs avaient d'autres connaissances qui leur permettait de transporter. On a quand même des monuments, des statues qui font 1500 tonnes. C'est le poids de 1200 voitures. Voilà. Si on a transporté des choses de 1200 tonnes, c'est pas... Déjà, aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Donc, c'est pas il y a 4000 ans qu'on pouvait le faire. Donc, oui, il y a une civilisation qui a disparu. Dans tous les livres, on parle de déluge, hein, que ce soit en Afrique, en Amérique, dans les livres tradition orale, on parle de déluge, donc il y a sans doute eu une catastrophe il y a 15 000 ans, 20 000 ans, oui.
D'accord.
Qui a détruit une civilisation.
Bon, qu'est-ce qu'on peut... Maintenant, on va venir un petit peu à la construction de la pyramide. Je vais vous poser des questions sur la construction. En combien d'années elle a été construite, cette pyramide, officiellement, d'après les théories qui sont en vogue?
Alors, officiellement, c'était 26-27 ans. Pierre Thallet, qui est comme le plus renommé des archéologues en France, égyptologue, nous parle de 20 ans maintenant. Alors, on a construit cette pyramide en 20 ans, mais son prédécesseur, qui s'appelle Snéfrou, lui, en a construit 3 en 25 ans. Donc, on a 25 ans pour construire trois pyramides. Alors, ce que je soulève aussi sur le, dans le livre, c'est les déplacements de chantier. C'est-à-dire qu'un Snefrou va, par exemple, construire la pyramide rouge. Et on a donc fabriqué, on a donc pour faire cette pyramide fait des routes pour accéder à ce chantier. On a fait un village d'ouvriers pour que les gens puissent dormir sur place. On a fait des infrastructures, on a fait des ports pour transporter les pierres. Et son successeur, subitement, au lieu de la faire à côté, il va la faire aux 20 ou 30 kilomètres plus loin. Donc, à chaque fois qu'on fait une pyramide, elle n'est jamais à côté de la précédente, mais elle est déplacée en, entre 20 et 50, 70 kilomètres à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut prendre plusieurs années pour reconstruire des villages, pour refaire des routes, refaire des ports, en plus du temps de construction de la pyramide. C'est complètement dément. Un maître d'œuvre dans, dans un chantier de lotissement, si on lui dit de faire une maison qui prévoit toute l'infrastructure pour faire sa maison et qu'on lui dit, eh ben, la prochaine, tu la feras 50 kilomètres, il va se dire, attendez, j'ai tout amené ici, on va la construire à côté. Et c'est ça que j'explique, moi, c'est que si on l'a construit à 50 bornes de la deuxième, c'est qu'il y avait une raison. Elle ne pouvait pas être ailleurs, et ça, c'est ce qu'on trouve dans le livre. Alors que les archéologues nous expliquent que c'est des caprices. Alors, le pharaon faisait des caprices et changeait le chantier de 50 kilomètres en déplaçant toutes les infrastructures, toute la logistique. Et ça, ça ne peut pas tenir la route d'une manière factuelle.
D'accord. Sur la construction de la pyramide, construire une pyramide en 20 ans, est-ce que c'est possible avec des moyens humains normaux de construire une pyramide ou trois pyramides en l'espace de 20 ans? Est-ce que c'est réalisable ou est-ce que c'est carrément impossible?
Ça fait une pierre toutes les deux minutes qui a été posée sur la pyramide de Khéops. Et pour les pyramides de Snéfou, ça ferait une pierre toutes les 30 secondes. Le problème, c'est que est-ce que c'est impossible ou possible ou impossible? Moi, je mets au défi l'archéologie parce qu'on nous dit on est capable de faire une pyramide en 20 ans. Et moi, ce que je demande à l'archéologie, c'est de reproduire dans Khéops, il y a un coffre, ce qu'on appelle le sarcophage, mais qui est un coffre de granit qui fait 1 mètre par 2. Et je demande aux archéologues et aux égyptologues d'être capables de refaire ce malheureux coffre de 1 mètre par 2 mètres. Alors le jour où on sera capable, avec les outils décrits dans les livres archéologiques, c'est-à-dire une boule de dolérite et une boule de cuivre, on sera capable de refaire le coffre de Khéops, on pourra passer à l'étape suivante, c'est-à-dire est-ce qu'on peut construire une pyramide? Mais aujourd'hui, on est incapable de reproduire un malheureux coffre de 2 mètres par 1 avec les méthodes anciennes. Donc, moi, je suis pragmatique, je suis rationnel. Les archéologues nous expliquent des choses par interprétation. Maintenant, il est temps de passer aux faits. Et les faits, c'est déjà de construire ce coffre de Khéops. Je suis même prêt à le financer. Pourquoi je suis prêt à le financer? Parce que si on peut reproduire le coffre de Khéops comme il l'est avec les méthodes originelles, tous les musées du monde vont se l'arracher. Donc, je vais faire fortune. Donc, je suis même prêt à financer ce coffre, mais personne ne veut se risquer, ni un tailleur de pierre, ni un archéologue, à refaire ce malheureux coffre de deux par un. Donc, vous voyez que pragmatique, avant de parler de la construction des pyramides, on va prendre simplement un élément des pyramides, et puis après, on va pouvoir avancer crescendo.
D'accord. Bon, très bien. C'est la fin de l'émission. L'émission arrive à son terme parce qu'on n'a plus que 2 minutes d'antenne.
Alors, je veux bien parler du livre aussi, où on peut trouver.
Alors, on va en parler justement. Dans les 10 minutes d'antenne qui nous restent, on va parler du livre. Alors, d'abord, le livre, justement, il est paru quand ou il paraît quand ou il est paru quand?
Alors, on avait une petite édition au début mai, mais il paraît officiellement demain. Demain, il sera aux éditions Hachette. Il sera distribué. Il est distribué par Hachette Multimédia. L'éditeur est Patrick Pazin, donc Talma Édition, Novi Mondi, Talma Édition, pour le commander. Alors c'est un livre tout en couleurs, avec pas mal de cartes, avec pas mal de plans, et qui est très pédagogique. Hein, il est accessible à tous. Donc la première partie, elle est là pour expliquer le consensus scientifique et le démonter, parce que ça ne repose que sur l'interprétation. Et après, je vais parler des 7 pyramides avec une grosse particularité, c'est que je vais imposer, je vais beaucoup parler d'une pyramide qui s'appelle Djédefrey, qui est la plus au nord, qui est à mon avis la première qui a été mise en place, qui a été mise sur le sommet d'une colline. Et tout va partir de cette pyramide d'une manière complètement évidente. Et donc, tout ce que vous avez trouvé dans ce livre elle ne correspond à rien de ce que vous avez déjà lu. Déjà, le fait de travailler avec des cercles, et le fait d'avoir de partir de cette pyramide méconnue de Djédefrey qu'on appelle la quatrième pyramide. Donc, ce livre n'est pas du tout redondant avec d'autres livres. Il est rationnel et il n'y a pas de plagiat puisque vous allez apprendre des choses. Oui, 90% du livre, c'est que de l'inédit et accessible à tous. Et j'espère pouvoir débattre avec un archéologue ou un égyptologue. Jusque-là, tout le monde a refusé. Je voudrais discuter en live, en direct, avec un égyptologue ou un archéologue pour mettre nos méthodes de travail face à face. La mienne qui consiste à prendre des mesures, donc une méthode rationnelle, face à de l'interprétation d'artefacts. Les artefacts, c'est tout ce qu'on trouve en Égypte, hein, les fresques, les papyrus. Donc voilà, j'ai hâte un jour de pouvoir débattre sur une chaîne avec un historien ou un archéologue. Mais ce livre, voilà, c'est que de l'inédit, que vous pouvez trouver à Talma Édition sur Internet, ou vous pouvez le commander dans n'importe quelle librairie, ou FNAC, ou n'importe quelle librairie, ou des sites. Et j'espère qu'il est passionnant. Alors, j'insiste aussi, j'ai fait un site qui s'appelle Pyramid Map, qui est un site collaboratif, parce que j'ai envie aussi que les gens participent. Moi, j'ai pas envie de travailler dans mon coin. J'ai envie que tous les gens puissent faire ce que j'ai fait, parce qu'on a tous des outils gratuits maintenant pour travailler. C'est que les gens m'envoient toutes leurs trouvailles, qu'on en discute sur mon site Pyramid Map, et puis qu'on mette leurs trouvailles sur ce site pour que tout le monde puisse en débattre. Je veux absolument que ce livre devienne une agora collaborative pour continuer à faire avancer ce mystère.
Parfait. Merci beaucoup, Eric. Merci pour ce beau témoignage de ce beau livre qui va sortir demain, justement, dans les box. Merci infiniment. On avait bien besoin d'une émission comme ça pour avoir une idée de savoir, d'après ce qu'on a cru comprendre avec le film de Jacques Grimaud, La révélation des pyramides, ce qu'il en était sur la découverte de choses qui n'ont rien à voir avec la théorie standard et qui nous laissent penser qu'effectivement nous ne sommes qu'au début des découvertes sur ce qu'il en est exactement de ces constructions qui nous laissent, je dirais, dans le questionnement encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Eric. Merci infiniment.
Eh bien, merci aux auditeurs de s'être passionnés jusqu'au bout pour ces pyramides. Et je sais que les pyramides, c'est quelque chose qui tout le monde est emballé au sujet à chaque fois que ça parle de pyramides ou qu'il y a une exposition sur les pyramides. Et il y a des mots magiques comme ça, Ramsès ou Tracamon, quand les gens entendent ça tout de suite, ils prêtent l'oreille. Et je sais que cette émission va être bien écoutée parce que c'est des choses qui passionnent les gens.
Exactement. Ce sera certainement très écouté. La construction et les constructions égyptiennes passionnent beaucoup le grand public. Donc, ce sera forcément très écouté. Puis, c'est vrai que les auditeurs écoutent beaucoup les portes de la connaissance aujourd'hui. Donc, ce sera forcément très écouté. La prochaine émission dans les portes de la connaissance, c'est la semaine prochaine. Ce sera avec Eric Buffotto, qui est chercheur au CNRS. Vous l'aviez eu pour les dinosaures. Sur un livre sur les dinosaures qui s'appelait, je ne sais plus, Que font-ils penser des dinosaures, idée préconçue sur les dinosaures, et il va nous parler de la fin des dinosaures, à savoir comment les dinosaures ont disparu, quelle est la vraie théorie et comment la vie a pu apparaître après sur la Terre après la disparition des dinosaures. Donc ce sera très intéressant de l'avoir à nouveau sur le plateau. Merci Eric, merci infiniment. Et puis à une prochaine émission pour les portes de la connaissance. Allez, au revoir.
Au revoir, à part tout le monde.
portes de la connaissance. Une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué.